Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous voir dans ces premiers cultes de 2016. Donc à moi aussi, je vous souhaite une bonne année, comme ça sera la dernière. Une fois pour toutes, ouais, vraiment que le Père vous bénisse, vous garde dans cette année qui s'ouvre. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là parce que ça permet effectivement de s'ouvrir, d'envisager de nouvelles choses, peut-être de nouveaux projets. Et puis, je formule vraiment mes meilleurs voeux pour vous dans ce que vous allez entreprendre avec le Seigneur cette année. Vous allez voir que le message et puis la louange se coordonnent de manière vraiment impressionnante. Et puis, on ne s'est pas vraiment coordonné pourtant. Alors, j'en suis très reconnaissant. Puis, je vois ça comme un signe de notre Père. Tu cherches quoi? C'est le titre que je vous propose pour ce matin, le titre qu'on peut méditer ce matin. Qu'est-ce que l'on cherche dans notre vie? Bien, tu cherches quoi dans ta vie? Je me permets de vous interpeller même en tu. Même si je tutoie pas tout le monde, mais tu cherches quoi? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Pendant les fêtes, j'ai fait pas mal de trajets en voiture. Donc, pendant les trajets en voiture, on peut écouter soit la radio, soit Henri Dess. Alors, ça, c'est quand les... ça, c'est quand je perds la négociation avec mes enfants, ce qui m'arrive assez souvent. Donc, je me tape du Henri Dess en boucle, puis j'en ai un peu marre. Mais bien heureusement, il arrive qu'à certains moments, mes enfants s'endorment en voiture. Et puis là, je peux écouter la radio. Et puis, je suis tombé sur une émission qui s'appelle, je ne sais pas si vous la connaissez, une émission de la première, qui s'appelle Le Crapaud Fou. Et puis, c'est assez intéressant parce qu'ils interrogent des gens, des personnes dont on n'entend presque pas parler. Puis là, cette personne, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Denis von der Weidt, je pense qu'il connaît. Bah, la preuve, personne. Pourtant, c'est de ces personnes, je trouve que c'est de ces héros du quotidien qui font des choses extraordinaires. Notamment lui, il a fait, entre autres, dans sa vie, il a monté une petite start-up pour promouvoir l'accès à l'eau potable. Et puis là, il en est actuellement à peu près 15 millions de personnes qui sont touchées avec un petit système qui se veut simple et efficace. Il est en train de convaincre l'OMS d'implanter ce système-là tout partout. Il faut qu'on soit le jour de Noël pour entendre parler de ces personnes-là. Bon, ça, c'est la petite pique aux médias que je fais. Mais ce qu'il y a un truc qui m'a retenu mon attention, c'est que tous les matins, ce monsieur, il se levait en se posant une seule question. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Quel est mon essentiel? Tous les matins, il se pose cette question et il tâche d'y répondre. Quel est mon essentiel? On vient de le chanter. Hein? Quel est mon essentiel? Alors, en ce début d'année, c'est le moment idéal, hein, le moment propice pour pouvoir se fixer et puis se poser de nouveau, tout à nouveau frais, cette question. Quel est mon essentiel dans ma vie? Essayez de distinguer l'essentiel de l'accessoire. On est très fort pour l'accessoire, on est peut-être un peu des fois moins fort pour l'essentiel, hein, on doit bien le reconnaître. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin à l'aide d'un texte qui lui n'est pas nouveau, qui lui, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, peut-être que vous le découvrez pour la première fois puis vous verrez, ça sera peut-être un émerveillement pour vous. Mais je vous invite à méditer ce texte car pour nous en tant que croyants, en tant que disciples du Christ, je pense qu'il est vraiment notre essentiel. Voilà, c'est bon. Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? » Voilà, le texte est de Luc 12, à partir du verset 22. Luc 12, 22, excusez-moi. « Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas. Ils n'ont même pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit. Et vous, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi allons-vous faire du souci pour les autres choses? Observez par exemple les fleurs des champs. Regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait bien. Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. N'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Amen. Je ne sais pas quelle est votre réaction lorsque vous finissez la lecture d'un texte pareil. Il y a toutes sortes de choses. On peut être soit très critique en disant que Jésus c'est un bel idéaliste qui n'a pas compris grand-chose à la vie. Ou on peut, comme moi, se laisser interpeller par la vigueur de cette parole. La vigueur de cette parole parce que je trouve qu'elle nous rejoint bien au moins à trois niveaux. Parce qu'elle nous parle premièrement de où nous sommes, quel est notre point de départ. Puis notre point de départ, il faut bien le reconnaître, c'est une situation très entremêlée. On va le voir avec une image qui me paraît très parlante. Ensuite, elle nous donne un but, une visée. Où est-ce que nous allons? Une visée qui est le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est venu en Jésus-Christ et qui est un but toujours à nouveau à rechercher. Et le comment, on peut compter sur les promesses qui sont données par le Père. On ne va pas y arriver sans compter sur ses promesses. Un point de départ, une visée et une manière d'y arriver. Alors voilà comment je considérerais, ou bien comment je pourrais illustrer notre situation de départ. C'est une artiste japonaise qui a fait ça, puis j'ai tapé sur Google simplement « situation entremêlée », puis je suis tombé sur cette photo. Elle est pas mal, hein? Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, mais il y a des fils tout partout qui cachent un escalier. Or, moi, j'ai pris comme cette illustration pour vraiment dire, cet escalier, c'est peut-être la visée. Cette visée du royaume, on connaît, on la sait, on sait où elle est, on sait peut-être même la direction. Et pourtant, on est souvent complètement emmêlé dans nos soucis du quotidien, dans nos préoccupations de choses et d'autres. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais moi, je m'y retrouve assez souvent dans cette image où j'ai peut-être l'idée de où aller, mais à quel point je suis entremêlé par ce que je suis en train de vivre. Et puis, cette image le souligne bien. Et le texte biblique que nous voulons lire le souligne aussi à sa manière. Il part de notre point de départ. Nous sommes des êtres soucieux, nous sommes des êtres inquiets, mais le Père nous invite à aller au-delà de ces inquiétudes. Il sait, il connaît nos besoins, il sait quels sont nos besoins, il sait qu'on a besoin de se nourrir, de se vêtir, nos besoins élémentaires, mais il nous propose d'aller au-delà de ces besoins élémentaires. Et puis, on peut encore ajouter une petite complexité à notre situation, je trouve, de chrétien helvétique, c'est de se dire que souvent ces fils, c'est quand même des préoccupations qui sont loin d'être vitales. On revient à cette interpellation du départ, savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Quelle est notre proportion dans nos vies à savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire? Est-ce qu'on y arrive alors qu'on est sollicité de toutes parts par cette quantité de fils qui veut nous cacher cet escalier qui mène vers le Père peut-être, cet escalier, cette visée qu'on peut se fixer? On est vraiment assailli par différentes choses. C'est un combat que de démêler ce entremêlement de fils. Il faut en être conscient. Il ne faut pas être idéaliste à ce niveau-là. Puis Jésus ne l'est pas, puisque il insiste vraiment sur cette manière de parler des soucis, de nos inquiétudes. Donc, c'est bien la preuve que, autant où il parlait comme dans notre temps à l'heure actuelle, cette question des soucis, elle est omniprésente. Alors, on va essayer un peu de les écarter, d'écarter ces fils pour aller de l'avant. Puis là, j'ai une autre image pour vous illustrer la manière d'aller de l'avant. Or, je n'ai pas trouvé d'humain, malheureusement, mais il était assez parlant, ce chat. Avec ce regard, ce chat, il sait exactement où il va. Alors, on peut imaginer une souris à la fin de la... Ça, c'est aussi mes enfants, ils gardent Tom et Jerry assez souvent, donc c'est le cas. Toujours est-il que ce regard, il est impressionnant. Hein. Il sait exactement où il va. Et même s'il est en équilibre précaire sur sa barrière, là, il est toujours sujet à passer d'un côté ou de l'autre, il garde les yeux fixés sur le but, puis c'est certainement grâce à ça qu'il lui permettra d'avancer. Et puis d'après moi, dans la vie, on est obligé de savoir où on va si on veut avancer et pas faire du surplace. On est obligé d'avoir un but qu'on se fixe, une visée qu'on se fixe, si on ne veut pas rester coincé entre nos fils et rester emmêlé dans nos situations. Et puis là, le texte biblique, il est clair, c'est chercher le royaume de Dieu. Ne cherchez pas de quoi vous allez manger, qu'est-ce que vous allez vous vêtir, de quoi allez-vous vêtir, mais cherchez le royaume de Dieu. Matthieu, il a juste et sa justice, lui qui ne le met pas. Mais chercher ce royaume de Dieu, ça c'est commun aux deux évangiles. Et c'est un ordre. Jésus ne donne pas 36 000 options, il dit « chercher ». C'est un impératif, hein. On a un peu de la peine avec les impératifs, ce n'est pas une invitation. C'est un ordre. Dommage, hein. Cherchez peut-être s'il vous plaît, si le cœur vous en dit, le royaume de Dieu. Non, non. Cherchez le royaume de Dieu. Il est assez radical, Jésus, une fois de plus. Alors quand on reçoit un ordre, il y a toujours quelques options qui s'offrent à nous, hein. Soit on se braque, puis on se dit « de toute manière, je sais mieux que tout le monde ». Je n'ai pas besoin de recevoir d'ordre, je continue ma propre voie. Ça, c'est peut-être un peu la réaction naturelle, ou en tout cas ma réaction naturelle. Mais en fait, tout dépend de qui nous donne cet ordre. Et là, quand on sait que c'est Jésus, celui qui veut être notre guide, celui qui veut être notre ami, qui est venu sur terre pour nous sauver, je trouve que l'ordre, il prend une coloration complètement différente. Ce n'est pas pour nous casser les pieds ou bien pour nous encombrer, au contraire. Jésus nous donne cet ordre pour nous libérer de nos soucis, de nos quotidiens et pour nous concentrer véritablement sur l'essentiel, son royaume et les valeurs qu'il comporte. Nous concentrer sur l'essentiel en obéissant à un ordre. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt un signe de reconnaître la valeur de celui qui prononce cet ordre. C'est Jésus lui-même qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » C'est un ordre qui va influencer notre manière d'être dans le monde. Et puis c'est un peu la thématique qu'on a retenue pour ce début d'année 2016 avec Nathalie puis le conseil, c'est de se dire « Quels sont ces valeurs du royaume, ou quelle est la culture du royaume? Comment est-ce qu'on peut être immergé dedans et ensuite rayonner d'une certaine façon, transporter les valeurs que nous avons dans le monde qui nous entoure? Alors, je ne vais pas tout vous dire ce matin, évidemment, mais on va pouvoir méditer différents textes des évangiles pour que ces valeurs, cette culture du royaume, essayent de s'imprégner en nous, pour que cette recherche soit une réalité dans nos vies. Et puis j'étais de nouveau interpellé, parce que j'ai de nouveau écouté la radio, par un prof de finance de l'université de Zurich. Donc quelqu'un qui est assez au fait de ce qui se passe dans le monde économique et financier, dans un centre mondial de la finance, hein, Zurich, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Et puis il parlait une fois de plus, il analysait une fois de plus les dérives de l'économie mondiale, de la financiarisation et tout et tout. Donc rien de très original là-dessus, un peu déprimant, mais rien de très original. Et puis, en tant que prof, il a décidé de combattre cet état de fait. On verra s'il réussit ou pas. Mais en tout cas, il a cette attention parce qu'il essaye de travailler avec ses étudiants sur les valeurs profondes qui les animent. Il dit, quand je les ai à 20, 22 ans, il y a encore des valeurs profondes. Et puis, je le demande de les mettre sur papier. Puis, de se dire, sur ces valeurs-là, vous êtes appelés à travailler dessus. Or, c'est une chose d'avoir des valeurs, ça on a l'impression que tout le monde a des valeurs positives, des valeurs qui sont constructives, mais il a fortement insisté sur la nécessité de travailler dessus. Sans le travail sur les valeurs, quand la situation commence à se tendre un peu ou que la pression se fait un peu plus forte, on passe facilement sur l'autre rive, et puis on commet des actes qui sont assez incroyables. Il prenait l'exemple toujours de, je ne sais pas si vous connaissez lui, Jérôme Kerviel, ce fameux trader de la Société Générale, qui a envoyé plusieurs mails quand il était en train de commettre ces irrégularités qui sont quand même chiffrées en milliards de dollars. Et puis, il avait été impressionné, ce prof, par le cynisme auquel était arrivé ce jeune gars, trader de la Société Générale. Il se dit, je suis sûr qu'au début de sa vie, quand il était en étudiant d'économie, il n'avait pas ces valeurs-là. Mais sous la pression, il a petit à petit pris des tangentes pour arriver à des mails d'un cynisme absolu où il était presque heureux de faire ces irrégularités notoires. Donc, pour nous aussi, c'est un peu l'encouragement que j'aimerais nous donner, c'est de se dire, on sait peut-être quelles sont ces valeurs, mais notre encouragement pour ces prochains temps, c'est vraiment en quoi est-ce qu'on peut travailler dessus. Comme ça, quand la situation devrait être plus tendue, que tu auras peut-être plus de pression dans nos vies de tous les jours, on pourra s'appuyer sur ce que l'on a travaillé, sur ce qui est profondément ancré en nous. Alors ça, c'est pour la suite du programme. J'espère vous faire envie parce qu'on va pouvoir travailler et vivre ces valeurs-là ici. Puis, je dois bien vous avouer que en ayant préparé ce message comme ça, je me suis dit, si je donne une impulsion forte sur la visée, sur la perspective à donner, sur se chercher d'abord le royaume de Dieu, un message assez volontariste finalement, je pourrais rester là puis faire une magnifique conclusion puis dire maintenant, allez-y, à votre tour, prenez votre destin en main. Et puis, je ne sais pas si vous avez bien lu le texte, mais si je m'étais arrêté là, puis c'était une découverte pour moi en préparant ce message, mon message aurait été incomplet. Et puis, je ne sais pas si vous savez pourquoi. C'est parce que dans ce texte, ce n'est pas avant tout une position volontariste. Il y a effectivement un ordre qui nous est donné, mais cet ordre, il est accompagné par différentes promesses. C'est par ces promesses que nous pouvons essayer de chercher le royaume de Dieu, que nous pouvons nous lancer sur cette voie. Alors ça, c'est la phrase que j'ai aussi trouvée. La confiance se gagne quand les promesses se tiennent. Alors je trouve que c'est une phrase qui est assez valable pour les relations humaines, mais de nouveau, quand on l'applique à Dieu, elle n'est qu'à moitié valable, voire pas valable du tout. Celui qui nous fait ses promesses, c'est celui qui est fidèle. On a chanté sa fidélité. C'est celui qui est avec nous tous les jours, qui nous accompagne. Donc, il tient ses promesses. C'est une réalité. Puis l'expérience, dimanche passé, on a encore pu écouter différents témoignages de la vie communautaire. Il tient ses promesses. Ce n'est pas du chiquet. Il tient ses promesses. Et ce texte, il est magnifique parce que se chercher le royaume de Dieu, il est entouré par trois promesses magnifiques. Je ne sais pas si vous les avez notées. La première, elle est au verset 30. Il parle de nouveau de ses besoins, de la nourriture, du vêtement. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait bien. Quelle première magnifique promesse de savoir que le Père qui est aux cieux, celui qui nous a créés, celui qui nous accompagne jour après jour, connaît nos besoins. Ce n'est pas un Dieu éloigné. Ce n'est pas un Dieu qui s'est perdu dans les cieux. C'est un Dieu qui est venu sur terre, qui est venu rejoindre au plus profond nos besoins de base, nos besoins de sécurité, nos besoins d'accompagnement, notre besoin d'amour. Votre Père le sait bien. Est-ce qu'on arrive à faire confiance à cette promesse de Dieu que notre Père connaît nos besoins? Ensuite, il vous donnera tout le reste en plus. Cherchez le royaume et il vous donnera tout le reste en plus. Là aussi, il y a une promesse extraordinaire. C'est de se dire que, en faisant ce pas de foi, en croyant vraiment que Dieu va tenir ses promesses, c'est peut-être là qu'il y a l'effort à faire, ou en tout cas la remise à question à voir. En croyant vraiment que Dieu va tenir ses promesses, on pourra contempler tout ce qu'il nous donne en plus. Ce n'est pas de l'évangile de la prospérité, ça, c'est aussi l'expérience qui dit qu'en faisant confiance à Dieu, on peut compter sur lui pour tout ce qu'il nous donne en plus. Parce qu'on aura aussi l'occasion de contempler ce qu'il nous donne et de savoir le discerner. Et la troisième promesse, qui est propre à Luc, puis que j'ai découvert pour la première fois dans ma méditation, Cette magnifique phrase, « N'aie pas peur, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. » C'est magnifique. Hein? Quelle confiance il nous fait. C'est un choix volontaire de Dieu et c'est une promesse qui va tenir. La parole de Dieu est certaine, c'est cette parole qui a permis au monde de se créer. Donc s'il nous dit que par son choix, il nous a choisi pour être ce troupeau, pour recevoir le royaume, on peut compter dessus. Je vous assure qu'on peut compter dessus. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Moi, je suis émerveillé quand je dis cette phrase sur le cœur de Dieu. Il choisit de nous donner ce qu'il a de plus précieux, son Fils, et de nous donner, de nous offrir ce royaume qui vient vers nous. Ces trois promesses sont vraiment là comme la base indispensable pour nous permettre à notre tour de saisir cet appel de Dieu qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume ». C'est pour ça que je l'ai mis en surligné, en gras. La part qui nous incombe, elle est entourée, enveloppée de ces trois promesses d'amour. Si on ne les avait pas, impossible de nous saisir de cette part-là, ou bien alors, on tomberait dans l'écueil d'avoir une position extrêmement volontariste, puis de se dire « on a un but à atteindre ». Moi, j'ai plutôt l'impression de dire que tout est déjà donné, et que parce que tout nous est déjà donné, on peut saisir cet ordre de Jésus avec nos forces, nos faiblesses, avec qui nous sommes. Sans les promesses, impossible d'y arriver. Et on retrouve cette phrase qu'on a retrouvée souvent aussi dans le temps de Noël, hein, quand l'ange Gabriel vient vers Marie. On sait que quand Dieu fait irruption dans nos vies, il y a peut-être une crainte. Hein. C'est pour ça que Dieu nous dit, là Jésus nous dit, n'aie pas peur petit troupeau, il sait où on en est. Il sait notre situation, nos situations entremêlées, nos craintes, notre réticence à aller de l'avant, toutes nos résistances qui sont très très profondes dans nos cœurs. Mais la phrase qu'il nous dit, c'est « N'aie pas peur ». « N'aie pas peur, petit troupeau, je suis avec vous, je suis avec toi. Cherche plutôt mon royaume. »